RCF.
Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, ici Richard Dessart de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Namur quand c'était la guerre. Mais d'abord et avant tout, permettez-moi d'avoir une pensée pour toutes les victimes des inondations de ces derniers jours. J'espère que vous vous portez bien, que vous n'avez pas de dégâts, que vous n'avez pas de proches sinistrés. Et voilà, on a évidemment une pensée émue envers toutes les victimes et les familles des victimes. Évidemment, c'est des situations catastrophiques qu'on ne peut pas comparer à celles de la guerre. Ce sont des événements différents, mais c'est toujours des moments de grande détresse commune. Voilà, des inondations, des guerres, c'est des choses qu'on vit ensemble, on a une détresse ensemble, et c'est aussi dans ces moments où on a beaucoup de solidarité qui intervient, qui se met en commun, et c'est aussi les beaux côtés de ce genre de catastrophe. Alors aujourd'hui, dans l'émission de cette semaine, on va partir à la rencontre d'Isabelle Delal. Alors Isabelle Delal, elle n'a pas vécu la guerre, elle est née en 57, mais elle connaît très bien l'histoire de son papa, André, qui a combattu à la brigade Piron, la brigade célèbre dont on n'a pas encore vraiment pu parler ici dans notre émission Namur quand c'était la guerre. Donc je suis très content qu'on puisse aborder ce sujet avec elle. Et puis ce qui est aussi très intéressant dans l'histoire d'Isabelle, c'est que son papa a été dans les premiers à fonder une association pour les anciens combattants, parce qu'évidemment il a vu pas mal de choses assez catastrophiques, hein. Il a eu des camarades qui sont morts pendant la guerre. Tout ça va vous être expliqué par Isabelle. Et donc, il a eu très vite l'envie de faire une association pour aider les anciens combattants. Et Isabelle, sa fille, va prendre par la suite le relais. Et un peu la garante aussi de la mémoire, fait perdurer tout ça. Donc, c'est aussi très intéressant d'aborder ce sujet qui est, on va dire, lié à la guerre. Ça fait partie de la guerre et des suites de la guerre. Donc, je suis très content qu'on puisse aborder ce sujet-là avec Isabelle Delal. Et je vous laisse tout de suite en sa compagnie.
Du côté de ma maman, mon grand-père a été prisonnier de guerre. Ça, c'est différent. Pendant 5 ans, Joseph Jean de Bière. Et du côté de papa, donc mon papa, lui, il a été à la fois résistant, prisonnier politique et volontaire de guerre. Et il s'est engagé à la brigade Piron. Quand il a vu la situation, l'oppression allemande, il a décidé avec son papa, il a dit « je pars ». Et mon grand-père tenait un petit café, je ne sais pas si vous voyez, rue de Bruxelles, il y a Place au Malius, il y avait un petit café qui a été repris par plusieurs restaurateurs, et malheureusement je n'ai pas gagné au loto, sinon je l'aurais racheté. Et dans ce petit café, il y a un puits où mon grand-père, mais ça papa ne le savait pas, cachait des armes. Et il faisait sauter des trains à Namur. Et alors quand papa qui allait chercher sa petite chopine à 15-16 ans, hein, puisque c'était un bistrot, et puis il lisait ses KPDP, quand il a vu ça, mon grand-père a eu peur qu'il soit mêlé et qu'on vienne l'arrêter, etc. Mais alors papa, après réflexion, à 17 ans, il est parti. Et il a pris un train. Il a descendu jusqu'à la zone libre, comme on appelle ça. Il est arrivé à Figueras, hein, et puis en Espagne. Et puis bon, c'est assez complexe à vous expliquer parce qu'il a fait à la fois la campagne de Normandie, la campagne d'Allemagne et de Hollande. Donc ça, c'est pour déjà vous situer globalement. Vous savez, on a vécu dans une époque où on était très discret, on ne parlait pas beaucoup de tout ça. Et papa, lui, me racontait toujours des blagues avec ses copains de guerre et il ne parlait jamais des choses douloureuses, sauf un jour, il a fait un film « Jour de guerre » à la RTBF, où il explique justement ce qui s'est passé donc en Normandie, mais surtout quand il a perdu ses 7 copains dont il a ramené les corps. Et suite à ça, je ne l'ai même pas su, moi, le jour de son enterrement, le général Tabary est venu et il nous a expliqué que papa avait une citation. Et on se dit, mais enfin, une citation, oui, mais parce qu'il avait ramené les corps et ils étaient 2 sur 13 à revenir vivants d'une embuscade, évidemment. Il y avait beaucoup d'Allemands, il y avait une erreur stratégique de la part de l'officier, mais ça, faut pas le dire. Mais à l'époque, papa n'a pas eu sa langue en poche, je dois dire, d'après ce qu'il m'avait expliqué. Mais il est revenu, et celui qui est revenu est devenu fou. Et papa a eu une balle dans la colonne vertébrale qui l'a suivi toute sa vie. Donc il est mort en 2002, malheureusement d'un bête truc, d'un anévrisme. Et sa balle était toujours près de la colonne. Hein. On n'avait pas su la lui retirer. Donc vous voyez comme les choses sont. Et il n'a jamais eu un souci de santé, si ce n'est ce problème, et il en est mort. Avec la maladie nosocomiale que l'on connaît dans les hôpitaux. Donc voilà.
Il est né quand alors votre papa?
Le 28 avril 1923.
Oui, c'est ça, donc c'était quand même un jeune homme à ce moment-là,
Tout
hein.
à fait, hein. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est un jeune. Bon, il est parti. Il a pris un train. Là, ils ont franchi pas mal d'obstacles. Ils sont arrivés du côté de Perpignan. À Perpignan, ils ont été hébergés par des braves gens avec qui nous sommes toujours amis. Enfin, le grand-père, l'arrière-grand-père est mort, bien sûr. Là, papa a travaillé sur des mules, dans les vignes et tout ça. Et puis, à un moment donné, les amis catalans sont allés à la mairie et ils ont vu que papa était signalé par la Gestapo. Sa photo était signalée. Donc, papa s'est échappé. Là, il a été pris à Figueras, on l'a mis en prison. Et là, il a été torturé par la Gestapo. Mais il a eu un bonheur, c'est qu'à cette époque-là, il y avait des échanges avec le Canada. Et les Canadiens ont échangé mon père contre un ballot de coton. Donc les Allemands. Donc il a été sauvé de justesse. Et puis de là, il est reparti en Angleterre. Il a suivi son instruction en Angleterre. Puis il est allé à Miranda aussi. C'est un lieu où il y a eu beaucoup de. Où finalement il y avait 12 000 Belges, hein, c'est pas beaucoup, hein, 12 000 Belges qui se sont engagés donc à la brigade.
Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont l'âge des pierres, du fer et du sang. Sur des larmes de mer, ils ont ouvert. Par des jours sans mystère et sur un monde en feu, les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont connu la terre à feu et à sang. Ils ont eu des chimères pour aiguiser leurs dents. Et pris des cimetières pour des jardins d'enfants. Ces enfants de l'orage et des jours incertains qui avaient le visage creusé par la faim ont vieilli avant l'âge et grandi sans secours. Sans toucher l'héritage que doit léguer l'amour. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont vu la colère étouffer leur chant, ont appris à se taire et à serrer les poings. Quand les voix mensongères leur dictaient leur destin, les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Avec leurs mines fières et leurs yeux trop grands, ils ont vu la misère recouvrir leurs élans et les mains égorger le printemps. Ces enfants sans enfance, sans jeunesse et sans joie, qui tremblaient sans défense de peur et de froid, qui défiaient la France, mais tes ailleurs et moi qui vivais l'espérance sont comme toi et moi, des amants de misère, de malheureux amants, aux amours singulières, aux rêves changeants, qui cherchent la lumière, mais la craignent pourtant, car les amants de la guerre sont restés des enfants.
Quand il est parti dans le sud de la France, c'était quoi? Avec ses parents en évacuation? Non.
C'est lui, tout seul. Et d'ailleurs, il me dit toujours, je me rappelle de cette phrase-là, son papa lui avait donné une petite dringuelle pour qu'il tienne le coup. Donc il partait c'était vraiment l'aventure, quoi. Il n'avait rien du tout. Il lui a donné des armes, hein, déjà à l'époque, pour ne pas qu'il soit sans rien. Mais il devait prendre un accent français. Mais mon père a vécu quand même, je dirais, 6 années en France, du côté d'Épernay, puisque mes grands-parents tenaient un bistrot là-bas, Épernay. Et puis, ils sont revenus en Belgique. Donc, papa avait déjà un accent français. Et quand il y avait des contrôles, parce qu'il est parti avec un copain, mais qui avait l'accent de Namur, et on lui avait dit, toi, tu te tais, si on demande les papiers, je te donnerai tes papiers. Et alors, évidemment, l'officier qui était là, avait demandé ses papiers, lui a répondu « Bonjour monsieur, moi je suis de Paris hein, », avec un accent. Et alors, bon, ben, de fil en aiguille, heureusement, ils sont passés de justesse et puis ils se sont fait choper. Parce qu'ils étaient déjà repérés, étant donné que mon grand-père, il faut savoir, donc, faisait sauter des trains. Donc il était aussi dans le collimateur.
Son père, à lui,
le papa de mon grand-père, oui, Gustave Delalle, voilà, pour être précise. Hein. Lui, il a fait sauter à René et ils étaient toute une bande. Hein.
Et donc, il est parti avec son ami vers l'Espagne. Et c'était dans quel but?
Eh bien, il fallait passer sur la zone libre. Hein. Donc, à cette époque-là, c'était la zone occupée, Namur. Il y avait que des Allemands. Hein. Il y avait, si, à la citadelle, les Allemands ont fait quand même quelques assassinats, des fusillades. Mais il n'y a pas eu des choses catastrophiques comme à Sambreville où il y avait des gens qui étaient pris, des civils et tout ça. Donc Namur était sous l'occupation. Hein. Et alors il y avait des petits mouvements de résistance qui étaient des mouvements. Mon père était socialiste, hein, il avait ses idées bien trempées et donc il les affichait. Et comme il a été pris par la Gestapo, il a été reconnu prisonnier politique. Parce qu'à ce moment-là, ceux qui passaient toute la frontière en Espagne, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des camps aussi en Espagne, hein, des camps de concentration, et je ne le savais pas moi, je l'ai appris il y a peu de temps parce que j'ai été visiter toute une série de camps, étant donné que je m'occupe aussi des prisonniers politiques pour la région de Namur, et je suis présidente de l'Interfédérale, donc j'essaye de regrouper toutes les associations patriotiques, et surtout de donner en tout cas la parole aux anciens qui ont combattu. Il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. Donc voilà, et là, la Gestapo, ils ont été chopés tous les deux. L'autre copain, il a eu l'œil arraché, papa a été torturé, et je vous dis, là, il a été sauvé par le ballot de coteau. Quand on raconte ça, on dit, tiens, c'est une... Hein. Et puis de là, il a rejoint, donc les Canadiens l'ont renvoyé en Angleterre, et il a fait partie, et il a voulu s'engager là comme volontaire de guerre. Donc là, les volontaires de guerre, il y en avait qui étaient sous les Américains ou sous les Anglais. Je ne savais pas, mais je vous le dis aussi. Il est arrêté en février 41. Il s'est évadé de Namur le 24 février 42. Donc il y avait aussi une Gestapo, je suppose que vous savez où c'était, avenue de Stasser. Hein? Alors il passe les Pyrénées et là il est interné 4 mois à Figueras, qui est un camp de concentration.
Donc il avait été arrêté à Namur et s'est
évadé.
Oui.
Et il a été emprisonné encore 4 mois à Figueras, dans une prison entre nous qui n'existe plus parce que les Espagnols l'ont supprimée. Ils ont fait une nouvelle prison tellement les gens en ont vu. Il y avait des tortures, mais c'était pas les Espagnols qui torturaient, hein, soyons clairs, c'était bien les Allemands. Hein. C'était la phalange, bien sûr, il y avait Franco, mais c'était les Allemands qui torturaient, qui avaient des choses affreuses. Mon père me disait toujours, si je retrouve le type qui a arraché l'œil devant lui de son meilleur copain, il dit, je ne suis pas, il n'était pas pour la vengeance, hein, mais là, je crois qu'il lui aurait fait son affaire. Et donc voilà. Et tout a démarré comme ça.
Et alors, une fois qu'il est en Grande-Bretagne...
Là, instruction, ils sont vraiment drillés comme les Marines. C'était vraiment... Les Anglais sont fort calés là-dessus. Et donc, ils sont repris dans ce qu'on appelle une brigade, qui est la brigade du général Piron, qui lui viendra plus tard, mais ça, là, c'était la brigade des forces belges de Grande-Bretagne. Et ensuite, papa est rentré dans la 1st Belgium Brigade, ce qui est indiqué par son numéro de matricule. C'est les tout premiers, ça, qu'il y a eu. Et donc, ils n'ont pas fait le débarquement le 6 juin, mais ils ont participé à l'évacuation, parce qu'à un moment donné, il fallait chasser les Allemands. Ils avaient débarqué, mais ils sont allés surtout sur la route Fleurie. Donc, ils ont fait Cabourg, Deauville, Oesterham, Honfleur, Varaville, tout ce coin-là. L'autre côté, c'était anglais-américain. Anglais, canadien-américain. Mais là, c'était les Anglais, mais on les connaissait comme Anglais. Mais il y avait des Belges dedans, donc ils étaient à peu près 12 000. Et puis alors, ils sont revenus, donc ils ont fait toutes les campagnes. Hein. Ça a été, la plus terrible a été celle de Hollande, du côté de Tilburg, où papa, malheureusement, a dû sauver ses gars, mais qui étaient morts. Et puis, ils avaient des embarcations archaïques. Les Allemands étaient très bien équipés, mais les Anglais, ils étaient sur des espèces de... Comment on appelle ça? Vous savez, les ronds pneumatiques qu'on prend pour aller à la mer, là. Ben, ils avaient juste ça hein, pour traverser. C'était des canaux, donc ils devaient traverser là-dessus. Et puis, alors, voilà, là, les Hollandais, ils ont beaucoup souffert, mais c'était des gens... très solidaire des Anglais, très proche. Alors, il y a eu beaucoup de massacres. Hein. Et puis, il y a eu ces sept copains qui sont morts. Et là, papa a eu du mal parce que quand je l'ai vu voir dans le film, tout ça, il ne montrait jamais. Vous voyez, il y a aussi beaucoup de non-dits dans le sens où les personnes plus âgées ne veulent pas que les enfants revivent les mêmes choses. Et c'est parfois que je vis les choses. Moi, comme je n'ai pas vécu la guerre, mais je vis les choses. Quoi. Vous voyez, je ne comprends pas. Comment on voit encore l'extrême droite maintenant, ça me rend malade. Parce que ça continue, hein, la bête sommeille, hein, la bête est toujours là. Hein, et la violence qu'on voit partout, c'est ça. Hein, ce sont soit des abrutis, ou alors en tout cas des gens qui sont radicalisés, dangereux. Et ce que papa m'expliquait toujours, c'était l'amitié, la solidarité. Il a appris plein de choses. Hein. On apprend des choses à l'école, mais c'est vraiment l'école de la vie. Le fait de devoir, parce qu'il était sergent, papa, donc il était instructeur aussi. Donc il était proche de ses hommes. Hein. Donc on apprend beaucoup de choses aussi de la vie. Et puis ça vous permet de prendre du recul, parce que après la guerre, il a quand même... donc il connaissait ma maman pendant la guerre. Et après la guerre, ils ont attendu, ils sont mariés en 47. Et alors, voilà, 47. Puis il s'est mis à réfléchir en disant il faut défendre quand même les anciens prisonniers politiques qui n'ont rien. Hein. Il faut savoir que les enfants de prisonniers politiques, ils n'ont rien eu. Le cas de M. Eken, vous l'avez peut-être vu à la télévision, c'est le président national. Lui, il est enfant qui a perdu père et mère dans les camps. Donc il n'a même pas connu ses parents. Et il n'a rien touché comme pension de guerre. Alors qu'il y en a d'autres qui ont touché des pensions de guerre...
Au retour de la guerre, c'est quelque chose qui m'interpellait.
C'était d'aider ses copains, ceux qui n'avaient rien, parce qu'il y en a qui ne trouvaient pas de boulot. Hein. Faut pas croire que c'était l'opulence après la guerre. Mon père, il a commencé comme assureur, et puis il a été pompiste, et puis il est devenu directeur chez SO. Donc il a été représentant, puis directeur. Mais il a fait tous les échelons. Il aimait bien les assurances, mais à un moment donné, il se dit tiens. Et il a travaillé avec cet esprit très... Un peu comme un assistant social, il aidait les gens qui étaient pompistes. Il disait, tiens, vous savez, les sociétés donnaient de l'argent, hein, des prêts. Et donc, il devait examiner si les personnes étaient solides, si elles allaient bien gérer leurs affaires, etc. Mais en fait, tout ça, c'est pour vous dire que c'est une école de la vie, la guerre aussi. Ça lui a appris beaucoup de choses, d'être respectueux des gens, d'être tolérant...
Cueillant les fleurs de la montagne, les señoritas rêvaient d'amour, et les rayons d'or du ciel d'Espagne emplissaient leurs grands yeux de velours. pleine d'amour et de flamme, oui, de toute mon âme, pour vous j'ai chanté. Vos yeux que je verrai sans trêve, plus profonds que des rêves, pleins de volupté. Joyeux, ô douce clarté, miroir gardant la beauté des jours d'été, vos yeux pleins d'amour et de flamme, oui, de toute mon âme, pour vous j'ai chanté. Les fleurs sont flétries sur la montagne, un vent de malheur a désolé les feux les plus beaux du ciel d'Espagne, les yeux de velours se sont voilés. Malgré toutes vos larmes, vous gardez votre charme et votre beauté. Vos yeux qui cherchaient dans les brumes, vos chants qui se consument, vos toits mutilés. Pourquoi tant de cruauté? L'amour n'a pas mérité l'adversité. Vos yeux pleins d'amour et de flamme, oui, de toute mon âme, pour vous j'ai pleuré.
Savoir que la brigade Piron, même la royauté, puisqu'ils étaient pour Léopold III a quand même une attitude équivoque pendant la guerre. Hein. Moi, j'ai lu beaucoup de bouquins, je me dis, soyons prudents, mais à cause de sa femme, la princesse de Réti, donc forcément, c'était gênant. Et le général Piron, c'était une grande gueule. Hein. C'était un type qui était très plaisant au niveau des femmes. J'ai d'ailleurs ici son histoire. Mais il a toujours été près de ses hommes, il a toujours défendu ses hommes, et c'était un homme proche de ses hommes. Vous savez, les généraux, généralement, quand on voit les officiers maintenant, c'est, hein, bon, chacun est à sa place. Et donc voilà, il a été un peu critiqué au début, et puis quand ils ont vu les résultats, que les petits Belges avaient des résultats, parce qu'il y avait le génie à la brigade, il y avait l'armée de l'air, il y avait des commandos qui se sont engagés après, hein, parce qu'ils sont venus après les commandos, et il y avait ce qu'on appelle l'armée de terre, avec les petits Brennkarir, les fameux petits chars. D'ailleurs, on se demandait comment ils ont tenu là-dedans, quoi, tellement que c'était des petits trucs. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que Piron a réuni des gens de toute philosophie, hein, parce que mon père, il était libre penseur, mais il s'entendait très bien avec l'aumônier. Hein. Alors parfois, il discutait à l'EDDI. Viens nous raconter ce qui ne va pas, et allez, on va boire un coup. C'était un type formidable, l'aumônier, c'était un type vraiment intelligent, mais papa était libre penseur, mais il y avait des gens de toute philosophie, et c'est ça que je trouvais bien, quoi, quand il explique le truc. Et Piron était attentif, il n'était pas pour dire pour l'un, pour l'autre, il ne parlait pas politique hein, à l'époque, ils étaient beaucoup plus unis, quoi.
Et il n'y avait que des Belges dans cette brigade-là.
Ah oui. Et des Luxembourgeois, la Belgium Brigade, les Luxembourgeois qui ont été des durs. Il faut savoir qu'il y avait aussi des Polonais, parce que papa avait un copain qui avait tellement souffert de la guerre qu'à chaque fois qu'il voyait un Allemand, il savait l'égorger, quoi. Et il expliquait, c'est des gens qui en ont vu, hein, les Polonais, c'est... Non, Polonais, bien sûr des Wallons, il faut le dire. Il y avait des Flamands, parce qu'ils sont encore nombreux maintenant. Et alors des Luxembourgeois. Ça, des Luxembourgeois, il en reste peut-être encore, allez, 4-5 sur tout le Luxembourg, quoi. Mais c'était des vaillants, notamment, hein, qui est mort il n'y a pas longtemps, Jules Lizin. Il était de Sanserut, près de Bouillon. Et lui, il a connu l'ordure de grêle. Donc comme quoi, Bouillon n'était pas collabo. Il y avait quand même des gens qui étaient pour résister, qui au fond était un homme de la bourgeoisie, hein, de grêle, et qui voyait ses enjeux financiers avant tout, avant la politique, quoi.
Ils parlaient quelle langue dans les soldats entre eux ?
Anglais et français, mais surtout anglais puisque l'instruction était en anglais. Et donc ils ont été dans des endroits près de l'Écosse aussi. Mais c'est surtout dans le sud de l'Angleterre. Et alors certains ont été à Miranda, au Portugal, dont mon papa. Mais vous voyez, ça a éclaté en différents groupes puisqu'il y avait le génie, ça c'était la grosse artillerie, quoi, hein. Ceux qui étaient l'armée de terre, donc c'est les éclaireurs et tout ça, et puis l'armée de l'air qui avait aussi une autre condition, et puis les commandos qui sont arrivés, il faut dire, vers 41, je crois, 41, oui. Donc là, ça s'est étoffé, mais ils portaient tous l'appartenance Brigade Piron.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qu'a été la Seconde Guerre mondiale ?
Que justement, il ne faut pas devenir fanatique, éviter le fanatisme, garder la notion de respect, de tolérance, parce que je crois que c'est la base de tout. Moi, j'ai toujours appris ça au cours de morale, la tolérance, le respect, quelles que soient les religions, quelle que soit l'origine. Donc, il faut essayer de se respecter mutuellement.
De manière générale, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes ?
Moi, je crois qu'il faut aider la jeunesse à comprendre, qu'il y ait des dialogues. Nous autres, nous avions des discussions au cours de morale, au cours d'histoire. J'avais un professeur d'histoire qui m'a donné goût à la politique, à m'intéresser à la politique. Ça, c'était passionnant. Et alors que les jeunes puissent échanger, qu'ils puissent dire, tiens, qu'est-ce que tu penses ? Moi, souvent, on a fait un film aussi, Enfants partisans, pour l'exposition. Et là, on a discuté avec des jeunes de l'école hôtelière. Eh ben, c'était fort intéressant de voir les questions qu'ils avaient à poser. Donc, contrairement à ce qu'on croit, les jeunes s'intéressent. Seulement, le problème, c'est que les vieux ne veulent pas parler du passé. Ils ont tellement souffert qu'ils ne veulent pas revivre cela. Et c'est pour ça qu'on avait initié, je dirais, il y a à peu près 10 ans... Des rencontres dans les écoles, en préparant avec l'institutrice ou l'enseignant, ça dépend de l'âge, les questions. Comme ça, on pouvait voir un petit peu sur quelle thématique, et puis ouvrir les questions aux jeunes. Moi, je crois que c'est la plus grande chose importante, c'est l'intergénérationnel.
Et voilà pour le témoignage d'Isabelle Delalle qui a pu nous parler de son papa André qui était à la brigade Piron et qui a vécu pas mal d'horreurs, hein, on peut le dire. Des témoignages touchants, évidemment. On n'a pas pu rencontrer André qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais ce genre d'histoire doit être raconté et doit être raconté aux futures générations. Il faut que ce genre d'histoire perdure et se transmette. Et la semaine prochaine, on part à Marche-les-Dames rencontrer Marcel Bertrand. Alors Marcel Bertrand, elle a connu la guerre. Elle est née en octobre 1925, donc elle a de très bons souvenirs de la guerre. Alors j'ai même eu l'occasion de discuter avec elle un peu du roi Albert Ier. Vous savez qu'il allait beaucoup à Marche-les-Dames, c'est là où il s'est tué en escalade. Donc ça a été très sympathique de pouvoir parler d'autres sujets que de la guerre avec Marcel Bertrand, mais évidemment la semaine prochaine c'est bel et bien sur la guerre qu'on va se concentrer, dont on va parler, et ce sera, vous verrez aussi, un très très beau témoignage, très complet, avec pas mal d'anecdotes. C'était vraiment une très belle rencontre, et donc tout ça vous pourrez l'écouter la semaine prochaine, donc avec Marcel Bertrand, né donc en octobre 1925. Et sachez que tous les témoignages sont aussi disponibles sur notre site www.namuranguerre.be. il y a la rubrique podcast et vous pouvez retrouver tous les podcasts sur cette page. Donc n'hésitez pas, si vous voulez réécouter les émissions, les écouter, hein, si vous n'avez pas eu la chance de toutes les écouter, vraiment pas hésiter à aller là-dessus. Et nous, donc, on vous propose de nouveaux témoignages jusqu'à la fin de cet été. Allez, je vous souhaite beaucoup de courage si vous avez été touché par les inondations, et je vous souhaite tout de même une belle semaine. À bientôt.